Le débat du jour. Gaëtan Goron.
Bonsoir et bienvenue. Lendemain d'élections régionales en France, 7 régions pour la droite, 5 pour la gauche, France métropolitaine, 0 pour le Front National. Mais s'il est un vainqueur, c'est bien ce parti d'extrême droite en constante progression dans les urnes. Près de 7 millions de Français ont voté pour lui. La droite a du mal à être perçue comme une alternative par les Français. La gauche aujourd'hui, entre libéralisme, sécurité, loin de ses thèmes fondateurs, ne convainc pas. Les partis politiques sont-ils discrédités ? C'est votre débat ce soir. Deux invités, Jérôme Sainte-Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Institut de sondage Pollingvox, Henri Rey, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche au Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF. Je vous propose tout d'abord d'écouter ces propos d'un militant socialiste.
C'est un problème d'éthique. Jean-Yves Le Drian avait dit qu'il ne garderait pas son ministère de la Défense. Maintenant, voilà.
Alors, propos d'un militant pro-Le Drian, recueilli hier à Rennes par Alice Posicki. Sauf revirement surprenant de sa situation, Jean-Yves Le Drian va être président de la région Bretagne et ministre de la Défense. Cela va contre un engagement du président Hollande. Henri Rey, est-ce que cela participe de la défiance envers les partis politiques, le Parti Socialiste en l'occurrence ?
Je crois que l'exemple serait mal choisi, parce qu'en fait on est dans une situation relativement exceptionnelle. On voit bien qu'avec les attentats qui ont eu lieu, avec les interventions militaires qui se mènent, le rôle particulier de Jean-Yves Le Drian n'est pas exactement à banaliser. Donc de ce fait, certes, il y a des exceptions. Dans toute règle, il y a des exceptions. Et c'est pas parce qu'il y a une exception que la règle est invalide. Je crois que le cas de Jean-Yves Le Drian est quand même très particulier.
Il ne pourrait pas laisser sa région, Jérôme Sainte-Marie, et justement s'occuper de ces questions de défense ?
Oui, enfin, c'est, faut bien que les hommes politiques aient aussi un ancrage local, sinon ça leur est reproché. Il faut bien voir que les Français sont toujours contre la règle, enfin, contre le cumul des mandats en général. Mais quand il s'agit de l'homme politique, de l'élu, du maire, par exemple, de leur ville, ils sont très contents qu'ils soient également députés pour soutenir les dossiers locaux au niveau parisien. Donc, cette question des cumuls est, à mon avis, plus souvent un prétexte pour critiquer la politique pour autre chose, ou les politiques pour autre chose qu'un véritable motif d'exaspération des Français.
Cette illustration, je l'ai choisie juste pour montrer un exemple de promesse non tenue. On peut en citer d'autres, la renégociation du traité européen, le droit de vote des étrangers promis par François Hollande. C'est cette question des promesses, c'est pas la même chose, on est d'accord. On va y venir justement, tenir ces promesses, c'est ce qui donne du crédit à un parti politique, Henri Rey.
Tout à fait. Alors c'est bien difficile puisque les déclarations des partis politiques sont toutes formatées, cadrées, les éléments de langage, le rôle omniprésent des communicants. Par rapport à cela, il y a effectivement une sorte de déperdition de l'authenticité de la parole politique et de ce point de vue, une défiance croissante. On la connaît, on la mesure. Nous, CEVIPOF, il y a un baromètre de la confiance politique qui montre vague après vague combien il y a une perte de confiance à l'égard de toutes les personnes qui ont une parole publique en définitive. Pas toutes, il y a encore des élus locaux, il y a encore aussi quelques institutions qui sont moins défiantes, mais qui suscitent moins de défiance, mais en fait c'est cela. Et donc de ce point de vue, c'est vrai que le fait de tenir ses promesses, de tenir ses engagements, voilà, le problème c'est qu'on entend beaucoup ce discours, on l'a beaucoup entendu hier, on l'a entendu après les résultats du premier tour également, et dans les faits, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une vraie application de ces déclarations d'intention? À partir du moment où on les promulgue et à partir du moment où on ne les applique pas, il y a en effet aussi un saut de plus vers la défiance.
Un autre exemple, Jérôme Sainte-Marie, celui d'un autre homme qui lui a fait des promesses en l'air, le contrat de travail unique qui n'a jamais vu le jour, l'égalité salariale entre femmes et hommes lorsqu'il était président, je parle de Nicolas Sarkozy. C'est un exemple particulier car il est à la tête aujourd'hui du parti Les Républicains. C'est quelqu'un qui a perdu une bataille présidentielle et qui est encore aujourd'hui en politique. Toujours là, un perdant, toujours là, c'est un problème aussi qui peut justement accréditer cette défiance.
Pas forcément. En plus, il faut être juste avec Nicolas Sarkozy. Il avait promis des choses telles que le bouclier fiscal et il s'était acquis la solidarité durable de la bourgeoisie française via cette promesse. Donc, et cette promesse tenue. Donc, il faut bien voir qu'il y a des choses qui sont faites. Le fait qu'il revienne après avoir été battu n'est pas sans doute le problème essentiel. Au fond, il y a beaucoup de gens qui, à l'époque où les gens votaient massivement et se reconnaissaient dans la politique, tels François Mitterrand, qui ont retenté leur chance et les Français ont été galvanisés par ce personnage pendant un certain temps. Non, le problème, c'est qu'il incarne l'absence de ligne politique, c'est-à-dire que c'est pas même pas le fait qu'il n'ait pas tenu toutes ses promesses, c'est le fait que sa ligne politique est devenue incompréhensible aux yeux des Français. Alors certes, a choqué la gauche, mais enfin, a perturbé beaucoup la droite. Ça, c'est le premier point, l'absence de ligne politique, et qu'on retrouve également avec la majorité actuelle. Et l'autre aspect, c'est l'absence de résultats sur le sujet principal pour les Français, c'est-à-dire la question de l'emploi. Autrefois, dans les années 70, par exemple, on avait une classe politique qui était infiniment plus corrompue que la classe politique actuelle, mais les Français y adhéraient largement parce que d'une part, il y avait des résultats et d'autre part, il y avait des clivages politiques bien clairs et nets.
Mais c'est quand même un problème, on rirait, au niveau du renouveau, d'avoir ces hommes politiques qui restent. Et juste pour faire une différence avec François Mitterrand, Nicolas Sarkozy a dit qu'il partait, puis il est revenu. Donc c'est quand même différent par rapport au renouveau, Henri Rey.
Il y a une exigence de renouveau qui porte sur les hommes et qui est tout à fait importante. D'ailleurs, on en voit un début de réalisation, c'est-à-dire qu'on met beaucoup l'accent sur les quadragénaires, on met l'accent sur les nouvelles têtes. Si vous écoutiez hier ce que disait Bruno Le Maire, il exigeait tout à fait que de nouvelles personnalités apparaissent.
Et en pensant à lui, alors qu'il est haut fonctionnaire et député depuis 8 ans, c'est quand même pas un nouveau, c'est quand même pas un perdreau de l'année.
Nouveau, ça ne veut pas forcément dire comme, par exemple, la tête de liste du Front National en Seine-Saint-Denis, 20 ans, ou comme Marion Maréchal Le Pen, 20 et quelques années.
Mais c'est
années.
Ça qui est intéressant, voilà. Peut-être, Jérôme Sainte-Marie, c'est d'avoir aujourd'hui un parti politique, le Front National, qui a une députée, Marion Maréchal Le Pen, 26 ans, un sénateur, David Rachline, 28 ans. Le Front National, en fait, c'est le seul parti important aujourd'hui qui a des très jeunes au poste à responsabilité. Ça en fait un parti qui a peut-être plus de crédit que les autres au niveau des Français, aux yeux des Français.
Ah, je crois pas. C'est un parti qui a plus de crédit aux yeux de beaucoup de Français que les autres. Sinon, il n'y aurait pas une telle croissance électorale. Mais pour moi, ça ne se joue pas du tout sur la dimension formelle de la vie politique. C'est un parti auquel on peut reprocher, pour le moins, un népotisme assumé, absolument invraisemblable. Et Jean-Marie Le Pen, qui a quand même fait émerger ce parti, il a maintenu la tête hors de l'eau, alors même que les institutions devait rendre impossible l'existence d'un tel parti. Jean-Marie Le Pen, lui, c'était pas le renouvellement. Non, c'est un parti qui est extrêmement critiquable, mais c'est un parti qui offre une vision du monde assez claire, qui donc a ce qu'on appelle tout simplement une ligne politique, qui est clivant par rapport aux deux autres qui se confondent de plus en plus dans l'esprit des Français. Si j'ose dire, c'est un parti politique qui fait encore de la politique. C'est ça la différence par rapport à mes yeux, avec le Parti Socialiste notamment.
Vous êtes d'accord avec ça, Alain Rey ?
C'est un parti qui a une idéologie structurante. On voit parmi les sympathisants et les électeurs du Front National qu'il y a un point de convergence qui les distingue de tous les autres. C'est la peur de l'autre, c'est la peur de l'étranger. C'est en effet cette dimension xénophobe et inquiète qui, quand on examine la population qui est électorale du Front National, d'une certaine manière les caractérise et les distingue encore, même si cette population s'est beaucoup diversifiée, étendue, avec la croissance de cet électorat. Mais le fait de dire que c'est un parti, alors il faut en montrer les limites, c'est-à-dire qu'en définitive, on peut insister sur le caractère familial, népotique, etc. Mais il y a aussi l'étroitesse de ses rangs. Il y a le fait qu'il y a beaucoup d'électeurs et que son implantation est une implantation qui est en train de s'effectuer. Et grâce à ses succès électoraux, il est en train de s'ancrer dans les territoires. Mais en fait, on passe en quelque sorte d'une structure relativement étroite, relativement limitée, avec beaucoup d'électeurs, à ce qui n'est pas encore véritablement un parti de masse.
Henri Rey sur RFI, c'est même l'Assemblée nationale aujourd'hui. Est-ce qu'elle ressemble à la France ? On a moins de femmes que d'hommes, on a très peu de députés issus d'une immigration récente, très peu de jeunes. Est-ce que cette Assemblée nationale participe pas aussi de cette défiance des Français ?
Mais pourquoi vous ne prenez pas l'exemple pour montrer cette absence de ressemblance de l'origine sociale des députés ? Vous croyez vraiment que pour voter les textes sur le droit du travail, sur le budget, c'est plus important d'être un homme ou une femme ou d'être issu de représenter le monde ouvrier ou le monde bourgeois? C'est ça qui est intéressant dans ces critères. On nous propose maintenant, via la diversité ou la parité, des critères un peu à l'anglo-saxonne, qui nous paraissent déterminants, mais qui ne le sont pas. Inversement, le Parti communiste dans les années 40-50, justement, réussissait à faire rentrer des gens de catégories sociales défavorisés, disons, économiquement.
Ces gens ne veulent plus se présenter aujourd'hui.
Exclus politiquement, mais simplement, vous avez maintenant un recrutement qui est très, très homogène socialement. Cette dimension-là n'est plus du tout évoquée, alors qu'on parle effectivement beaucoup de parité, de diversité. C'est pas un échantillon de sondage, si vous voulez, l'Assemblée nationale. C'est pas sa fonction, c'est même pas une attente réelle des Français. Les gens veulent des gens qui les représentent, mais qui ne soient pas forcément comme eux. C'est cette exigence de similitude entre électeurs et élus est une exigence à la fois théoriquement, à mon avis, très contestable et surtout très partiel, puisque pourquoi tel critère et pas tel autre?
Et Henri Rey, c'est un vecteur de l'abstention aussi, vous pensez, c'est ce fait que les Français ne se retrouvent pas représentés?
Oui, c'est tout à fait clair que les catégories populaires, vous avez dit les jeunes, ne se retrouvent pas représentés dans ce personnel politique. Pourquoi aujourd'hui il y a très peu de représentants émanant de ces catégories populaires et particulièrement du monde ouvrier? Bon, il y a de multiples raisons à ça. Il y a l'affaissement des partis comme le Parti communiste qui se proposait de les former, de les promouvoir. Mais il y a aussi toutes les transformations qui ont atteint ce monde social, ce monde de l'entreprise. Et donc, bon, on ne peut pas le résumer un seul facteur, mais c'est vrai que le fait d'avoir en quelque sorte un personnel politique relativement formaté, ayant à peu près les mêmes éléments de langage, le même discours, formé dans les mêmes écoles, avec en quelque sorte les mêmes entourages, collaborateurs, etc., qui ont un poids considérable dans la vie des partis, c'est vrai que les collaborateurs de tous ces élus ont aussi une fonction d'encadrement dans les partis et qu'ils se ressemblent à mains égards.
Vous écoutez RFI, c'est le débat du jour. À 20h51, heure de Paris, les partis politiques sont-ils discrédités? On en parle avec Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut Sondage Pollingvox, et Henri Rey, directeur de recherche au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, le CEVIPOF. Jérôme Sainte-Marie, quel parti porte un véritable projet de société concret aujourd'hui?
Alors, excusez-moi, je reviens un instant sur l'aspect précédent. Il y avait une étude de l'IFOP très intéressante, publiée récemment, qui montrait pour les départementales que le parti qui avait la représentation la moins imparfaite de la société, ou plus précisément des catégories populaires, c'était précisément le Front National. C'est lui qui a réussi à diversifier socialement son électorat. Ça compte parce qu'inversement, il n'y a jamais eu, la parité est là, on parle beaucoup de diversité, les gens votent de moins en moins. Non, pour les partis, alors c'est pas à moi de dire quel parti qui a le projet de société le meilleur ou le plus cohérent, ça serait un jugement de valeur. Ce que je note simplement, c'est que il y a un des succès du Front National tient précisément à ce que son projet est en réalité assez faible, mais il est assez unifié. Vous avez une vision du monde qui est proposée. Alors qu'inversement, pour prendre la droite, c'est assez contradictoire, et pour la gauche, il y a une forme de destruction par elle-même de son propre projet, de sa propre vision du monde. Avec le pacte de responsabilité, avec Macron, avec Valls, le peuple de gauche voit sa vision du monde prise à contre-pied. Et on lui explique finalement qu'il a eu tort pendant très longtemps.
Alors aujourd'hui, on voit la gauche qui est au pouvoir à cause d'un étrange complexe aussi, peut-être lié au pouvoir. Il va vers le libéralisme culturel, libéralisme économique. À droite, la droite veut se démarquer aussi, quitte à tirer de temps en temps vers l'extrême droite, qui elle met gauche et droite devant leur ressemblance. L'électeur, il est perdu, il n'a plus de repères, Henri Rey.
Ah oui, il manque singulièrement de repères, et ce ne sont pas les messages émanant des partis qui leur en fournissent. En effet, il y a des réponses qui sont schématiques, simplistes, et qui sont fournies par une formation que l'on connaît bien, qui a eu beaucoup de succès, et qui est le Front National. Pour le reste, la distinction est rendue encore plus complexe par le fait qu'il y a un pluralisme interne bavard. C'est-à-dire que vous entendez d'un côté cette querelle entre les prétendants à l'élection, à la désignation primaire du côté d'une partie des Républicains et de la droite. Vous avez ces différents sons que l'on entend aujourd'hui qui sont pas toujours concordants. Du côté du Parti Socialiste, il y a eu tout l'épisode des frondeurs et puis ces discours eux-mêmes différents entre Macron, Valls, etc. et le Président de la République qui fait entendre aussi sa musique propre et qui tente de mettre en quelque sorte un point moyen dans tout cela. Par rapport à cela, il y a une assez grande discordance de ces vues. Et en même temps, on ne voit rien qui avance véritablement, parce que la perte de confiance dans les partis politiques, c'est d'abord le constat qu'il n'y a pas de changement important dans ce qui touche du plus près à leur vie, c'est-à-dire évidemment l'emploi, le chômage, les préoccupations concernant la retraite, les préoccupations sécuritaires qui sont très importantes aujourd'hui. Et donc, par rapport à cela, on ne voit pas véritablement ces partis en mesure d'agir, de transformer ces paroles en quelque sorte en actions qui soient probantes.
Alors, c'est compliqué d'arriver au pouvoir. Un autre problème n'est-il pas que, peu importe le contenu véritablement d'une politique, l'élu d'aujourd'hui, il est quelque part un peu machiavélien. Il essaie de rester au pouvoir, quels que soient les moyens, quitte à sacrifier ses ces idées, le but est que je sois réélu, c'est ça aujourd'hui que les Français ont peut-être à l'esprit ?
Oui, plus ou moins, quoique la classe politique s'est imposée elle-même beaucoup de contraintes. Encore une fois, il y a des lois notamment sur le cumul ou le non-cumul précisément qui sont nouvelles, il n'y avait pas ça autrefois. Il y a des lois sur l'intégrité en politique, ça n'existait pas autrefois. Et pourtant autrefois les gens votaient, les gens y croyaient. Alors pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait des projets très différents qui s'opposaient. Et là, vous avez remarqué depuis 30 ans, il y a une alternance presque systématique. Et maintenant, avec le quinquennat, on peut comparer très rapidement, puisque ça dure 5 ans, par définition. Et il y a 5 ans de gauche, 5 ans de droite, 5 ans de gauche, 5 ans de droite. Et les gens constatent bien que la politique qui est menée est à peu près la même. Il n'y a quasiment pas de conflit structurant désormais entre la gauche et la droite. Alors, on essaye de trouver des thèmes, comme le mariage pour tous, mais enfin, ce n'est pas grand-chose. Et pourquoi ça ? Tout simplement parce que les partis de gouvernement actuellement placent leur pas dans le cadre de la construction européenne. Et de fait, à la fois pour des raisons de traité, même des raisons juridiques, ils sont amenés à faire à peu près la même chose, puisque ce n'est pas eux qui décident en réalité.
Le temps politique, à toi, à moi, tous les 5 ans, le problème n'est-il pas aussi qu'aujourd'hui on n'a pas un mandat non reconductible ? Est-ce que le fait justement d'avoir une impossibilité de se représenter permettrait de faire gagner les idées et non ses volontés de rester au pouvoir, Henri Rey ?
Alors, la durée du mandat est en cause aussi, c'est-à-dire le quinquennat a quand même changé pas mal de choses. On pourrait envisager un mandat unique.
Mais on peut penser aussi aux autres mandats, mandats législatifs, mandats régionaux.
Oui, alors il y a effectivement un intérêt à cela, c'est-à-dire l'accès au métier politique, à un métier qui ne serait jamais une profession à vie d'un grand nombre de personnes. Mais en même temps, il y a aussi tout ce problème de l'inexpérience que l'on constate bien. Et il y a aussi le temps qu'il faut pour élaborer, mettre en œuvre des politiques publiques. Si on est en permanence en train de former en quelque sorte des élus à la connaissance des dispositifs administratifs, stratégiques, qui est nécessaire de mettre en œuvre pour engager une politique publique, à ce moment-là, on se trouvera quand même devant une autre aporie, celle de l'inexpérience, celle en quelque sorte d'un pouvoir croissant, non plus d'hommes politiques qui changeront, mais d'une administration qui est déjà très puissante et qu'il sera encore davantage dans cette hypothèse.
Pour que les Français se retrouvent davantage dans les partis, ne faudrait-il pas un éclatement de l'actuel spectre, de l'actuel système, une refonte de ce spectre-là, Jérôme Saint-Henri ?
Ah, je crois que vous touchez là un point essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le système des partis, à mes yeux en tout cas, entre gauche et droite, ne correspond plus à la réalité des clivages dans l'opinion, à la réalité des débats.
On a quoi, un bloc de centre et un bloc d'extrême droite ?
Pour moi, vous avez un bloc qui, enfin pour moi et pour beaucoup de Français de fait, hein, vous avez un bloc central, c'est les deux parties, les partis de gouvernement, disons, qui sont succédés depuis des années, qui ont finalement les mêmes présupposés et qui acceptent de travailler dans un cadre de souveraineté extrêmement limité. Et c'est eux qui ont voté d'ailleurs la ratification du traité que les Français avaient refusé en 2005. C'est une date extrêmement importante, ça, dans la défiance par rapport à la politique. Il y a eu un référendum très dramatisé. Il y a eu un résultat qui était justifié ou pas justifié, c'est pas
le
bon de dire.
Le
non à 55%. Et deux ans plus tard, ça a été ratifié par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, gauche et droite confondus, ce qui est un peu un déni de démocratie, il faut dire les choses sérieusement. Et c'est vrai qu'on cherche peu à peu, et je crois que ça va se produire très bientôt, ça va se produire à mon avis à l'issue du second tour de la présidentielle, il y aura probablement une réorganisation du système politique qui correspondra beaucoup mieux au vrai clivage.
Il nous reste 30 secondes, 15 chacun pour cette question, messieurs. Marine Le Pen présidente, cela peut être un déclencheur pour que naisse chez les partis républicains un vrai projet de société, Henri Rey ?
Ah, on ne le souhaite vraiment pas. Je pense que on peut arriver à des réformes profondes de la vie publique sans passer par cette épreuve-là.
Des réformes profondes sans passer par cette épreuve-là.
Oui, Marine Le Pen présidente, certainement pas, mais il y aura, ce qui est très probable, ce qui est devant nous en 2017, c'est Marine Le Pen présente au second tour à la présidentielle sans être élue, et cette seule présence amènera très probablement des gens qui sont assez d'accord à gauche et à droite à travailler ensemble.
Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut de sondage Polling Vox, Henri Rey, auteur de l'enquête sociologie des adhérents socialistes aux éditions Sciences Po, Cevipof. Le Cevipof étant le centre de recherche que vous dirigez. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Florence Ponce, Alexandre Serre à la préparation, Hélène Avril à la réalisation, et vous tous à l'écoute. Merci d'être présent sur RFI, débat à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr.